je vais donner la parole à Thierry Crouzet qui va nous exposer, en fait, il va nous faire parler Julius Gregarius.
Je vais vous parler de Julius Gregarius, oui. Donc, Julius Gregarius, on va parler de lui. Alors, quand Philippe m'a appelé pour me demander de parler aujourd'hui, il m'a dit il faut faire une fiction pour imaginer 2057, et j'ai été 100% d'accord avec lui, parce que je pense qu'on ne peut pas prévoir le futur. Même si Xavier a essayé de le faire, je pense qu'on ne peut pas prévoir. Mais donc j'ai dit, ok, je peux faire qu'une fiction. Sauf que, entre-temps, j'ai découvert l'existence de Julius Gregarius, et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas parler de lui pour vous parler de la bibliothèque en 1957. Donc plutôt que de faire une fiction, je vais vous raconter sa vie. Donc Julius Gregarius est italien, il est né sur l'île de Capri, et on l'a oublié pratiquement totalement. Si vous regardez sur le net, vous allez trouver trace de lui uniquement sur la version napolitaine de Wikipédia. Ça existe, vous pouvez chercher, elle existe vraiment. Et donc ce Julius Gregarius était quelqu'un qui a été d'une discrétion extraordinaire et à la fois qui a emmagasiné des connaissances comme jamais personne. Donc je vais vous raconter un peu son parcours assez rapidement. Il a commencé sa vie par étudier la médecine à Milan, dans le nord de l'Italie. C'est là où il y a les meilleures facultés de médecine en Italie. Et quand la première guerre mondiale a commencé, il s'est porté volontaire comme infirmier. Et la seule photo de lui qu'on a connue, c'est celle-ci. On le voit là, on n'a pas d'autres photos de lui, donc il faut se l'imaginer comme ça, assez élégant pour quelqu'un qui était sur le front. Et il a été confronté à tellement d'horreurs qu'il a été dégoûté en fait de l'humanité pratiquement. Et il s'est réfugié sur son île de Capri après la guerre, et il y est resté pour toute sa vie. Et il a pris une décision assez radicale à ce moment-là, c'est de devenir un homme mémoire. C'est-à-dire, il a décidé de lire, d'emmagasiner des connaissances pour avoir dans sa tête assez de connaissances pour pouvoir faire redémarrer l'humanité en cas de cataclysme, en cas d'extermination. Donc il est revenu de la guerre avec une vision hyper pessimiste, et il s'est mis à lire, à lire, à lire. Et pour mémoriser des informations, il a utilisé une méthode mnémotechnique qu'utilisaient les anciens, qui s'appelle la méthode des Loki, ou des palais de mémoire. Alors ça, si vous avez lu un peu Sherlock Holmes utilise cette technique, ça revient à, dans sa tête, se créer un palais, et dans les pièces du palais, on range les différentes connaissances, exactement comme les livres dans une bibliothèque. Ça veut dire que quand on se balade mentalement dans son palais, on peut retrouver les différentes pièces et différentes données. C'est en gros ce que j'essaye de faire pour me rappeler la vie de Gregarius. Je ne sais pas si je vais y arriver, peut-être on peut se perdre aussi dans ces bibliothèques. Donc, il lit comme ça, il a magasiné des connaissances, et en 1933, il y a un événement assez terrible qui se produit, c'est que les nazis brûlent les livres dans les rues de Berlin. Et là, il se dit, moi tout seul, je risque de ne pas réussir à tout mémoriser. Donc, ce qu'il fait, c'est que sous sa villa de l'île de Capri, il fait construire un labyrinthe qui est la réplique de son palais de mémoire, dans lequel il va ranger des vrais livres. Il se dit, parce que je peux mourir, donc il y aura tous ces livres, on pourra reconstituer mon palais de mémoire. Et c'est des informations très pratiques dont il se souvient, parce qu'il faut que l'humanité puisse se redémarrer. Donc, en plus de mémoriser, il fait creuser ce labyrinthe pour emmagasiner les données. Et il reste retiré du monde. Donc la Seconde Guerre mondiale arrive, la Shoah, les exterminations dans tous les sens, les bombardements, la bombe atomique, Nagasaki, Hiroshima, etc. Donc on a sa vision de l'apocalypse pour lui est confirmée. Il est sûr que l'humanité court à sa perte. Donc il a une vision de plus en plus pessimiste du monde. Mais il continue malgré tout à se dire « je suis un point à partir duquel l'humanité pourra repartir ». Donc à la fois il est très pessimiste et à la fois il croit quand même à l'humanité, c'est assez paradoxal. Et ce qui se passe, c'est qu'il lit en 1948, il lit 1984 d'Orwell. Et quand il lit ce livre, ça lui casse un peu le moral de voir que les hommes peuvent être reprogrammés mentalement, etc. Et en même temps, il apprend qu'en Chine, le Parti communiste fait du lavage de cerveau des dissidents. Il apprend que la CIA essaye de faire du lavage de cerveau de certains de ses soldats, de certains de dissidents aussi, etc. Donc il commence à voir que même les salles de son palais de mémoire peuvent être, à partir avec la technologie de son époque, peuvent être effacées et être reprogrammées. Donc il est vrai, il a vraiment plus foi, il a complètement des doutes sur sa capacité à lui à mémoriser les informations de l'humanité et aussi des autres hommes, parce que des autres hommes et des autres femmes, parce que on va pouvoir les effacer assez facilement, les réécrire et les modifier. Donc il prend une décision assez radicale, surtout, j'ai oublié, que la télé arrive en même temps. Et là, pour lui, c'est encore plus terrible, c'est que les gens, non seulement on leur lave leur cerveau, mais ils sont volontaires pour qu'on leur lave le cerveau. Donc, il prend une décision assez radicale, c'est qu'il se suicide. Donc, on est en 1957, il se suicide, et il nous laisse une lettre qui s'appelle « Après la littérature ». C'est son seul texte qu'on a de lui, une lettre où il nous explique sa vision de l'avenir. Et dans cette lettre, il explique que ces technologies de lavage de cerveau, de reprogrammation, de transmission de l'information vont se développer et qu'à terme, on ne va plus lire. Lire, ça ne servira à rien parce qu'on va envoyer les informations par télépathie aux gens. Donc, une fois que l'humanité, pour lui, est passée en télépathie, tout ce quoi il a cru n'a plus aucun sens. Donc, c'est pour ça qu'il se suicide. Il n'a vraiment plus l'espoir. Et il va dresser, dans cette lettre, un tableau, pour lui, très noir, et qui est assez poignant quand on le lit. Et une des premières choses qu'il dit, si on regarde bien ce qu'a fait la voiture, elle a remplacé le cheval. Et pour lui, les chevaux... Pour lui, toutes les technologies ont des technologies qui vont les remplacer. Une technologie n'est pas faite pour durer. Et pour lui, la lecture est une technologie. Et il explique très clairement que l'humanité a commencé par se servir de la parole et de la mémoire. Et la technologie qui permettait d'avoir une grande capacité de mémoire, c'était justement les palais de mémoire. Donc, qui a été utilisée par tous les anciens, Cicéron notamment, qui a été utilisée... Vraiment, on trouve les traces dans toutes les cultures. Et il se dit que puisque les palais de mémoire ont été oubliés, remplacés par l'écriture, l'écriture, à son tour, pourra être remplacée. Donc, il combat une thèse qui est aujourd'hui défendue. Si on s'intéresse aux théoriciens des médias, tous disent aujourd'hui qu'un média ne remplace jamais un autre, mais s'ajoute. Et si on regarde ce que dit Grégarius, non, il ne s'ajoute pas. Les palais de mémoire, il y a certaines personnes qui peuvent encore pratiquer ces techniques, mais je pense que dans la salle, on n'est pas nombreux à avoir des palais de mémoire dans la tête. Donc cette technologie, qui était une technologie très puissante pendant presque tout le cours de l'histoire de l'humanité, a été remplacée par l'écriture. Donc il y a 3600 ans avant Jésus-Christ à peu près, ou un peu plus peut-être. Donc les technologies ne sont pas éternelles. Et donc, il se pose des gros problèmes. Donc, il dit, ça va être remplacé par quoi ? Donc, il imagine que le lavage de cerveau va se développer à tel point qu'on va pouvoir déverser des livres dans la tête des gens, qu'on va pouvoir perfuser les connaissances, perfuser les contenus des livres. Et alors, il voit deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est des livres qui sont pratiques, avec des connaissances, des essais même, on peut dire, ou c'est des livres avec des connaissances, des faits. Il dit, a priori, pas de problème, on pourra les transfuser, on restera la connaissance, mais ça sera très bien, en fait. Mais l'autre problème, c'est avec les œuvres d'art. Qu'est-ce qui se passe avec une œuvre d'art si on la transfuse à quelqu'un? Est-ce que ça va marcher? Et il s'étend sur un exemple très précis, c'est le cas de Proust. Si on prend La recherche du temps perdu, tous les tomes de la recherche, et si on les transfuse en quelques minutes dans la tête de quelqu'un, est-ce que ça fait sens? Qu'est-ce que les gens vont recevoir? Et bien sûr, il dit que non. Il insiste sur le fait que quand on lit une œuvre d'art, donc la mémoire la plus profonde de l'humanité, le temps de lecture est important pour l'œuvre. Il fait partie de l'œuvre. Parce que quand on écrit des livres, on sait que le lecteur va mettre du temps, donc la temporalité de la lecture est fondamentale et fait partie de l'œuvre. Donc si on se met à transfuser des œuvres en quelques secondes qui ont été faites pour être lues pendant des mois, on détruit l'œuvre. Et là, lui, il est très pessimiste, parce qu'il dit, si on détruit les œuvres, on va détruire le passé, et sans passé, il n'y a pas d'avenir. Donc, il a peur que l'humanité, en fait, se suicide, se saborde complètement, en allant trop vite, en fait. Donc, raison de plus pour lui de se suicider, en fait. Donc, c'est pas très heureux, mais il a un petit espoir pour vous autres bibliothécaires. Il y a une petite note, hein, une parenthèse, comme dirait Xavier, où il dit qu'il y a un espoir. Les bibliothèques ne serviront plus à rien, bien sûr, parce que les livres seront complètement immatériels, transmis par télépathie, etc. On pourra avoir des overdoses, comme il a dit, parce que si on prend une trop grande dose d'informations, on explosera, etc. Donc il faudra bien des limitateurs. Donc les bibliothécaires pourront servir de diaunteurs, en quelque sorte, mais aussi, ils pourront être les gardiens du temps. C'est-à-dire que eux, vous, vous devrez continuer à savoir à quelle vitesse il faut lire les œuvres pour ralentir les gens, pour essayer de les mettre dans la temporalité des textes anciens. Donc vous deviendrez en quelque sorte les gardiens du temps, de la culture d'avant, pour que le passé de l'humanité reste là et pour qu'on puisse en profiter. Donc il envisage le métier de bibliothécaire comme gardien du temps de la lecture, du temps d'avant, sauf que lui, il a pas décidé de se former, de se préparer à ça, il s'est suicidé. Parce que ça lui paraissait sûrement abominable, et c'était loin, c'était encore assez loin dans l'avenir. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il est mort, il s'est suicidé en 57, et donc c'est en 2057, ça sera le centenaire de sa mort. Et alors, j'espère qu'à ce moment-là, on pourra se souvenir de son enseignement. Et lui, il avait très peur d'une chose, c'est la dernière chose que je vous dis. Il se dit, moi, depuis ma naissance, j'ai lu par mes yeux, ou par mes j'ai écouté les histoires par mes oreilles. Donc, la connaissance est arrivée par mes sens, mais mes sens, c'est le plus primitif, en fait, pratiquement, à part le toucher et l'odorat. Une fois que les connaissances arrivent par la pensée, directement dans notre cerveau, ce n'est plus des mots, c'est des impressions, des sensations qui arrivent. Donc, on est en train d'aller vers l'abstraction pure. Le corps, on se désincarne, en fait. Et lui, c'est ça qui lui faisait terriblement peur. C'est que les lecteurs de demain lisent directement avec leur cerveau, avec leurs neurones, et donc que ça crée une humanité assez idéalisée, où ce soit les concepts qui gagnent. Et il a vécu une époque où les concepts, les théories politiques ont été terribles. Et il se dit, si on reçoit toutes les informations par la pensée, on va exploser, on va, c'est la porte ouverte au totalitarisme. Donc c'est ça qui lui faisait très peur. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un truc super important, mais c'est pas grave, c'est une belle image. Ça, c'est juste une technique, c'est juste une technologie qui a disparu. Ça s'appelle, c'est un dispositif mémoriel. Vous voyez cette tablette, hein, c'est utilisé par des sages en Afrique. Ils placent leurs doigts le parcours de leurs doigts sur ces billes de couleur. Ça fait le même rôle que les pièces d'un palais mémoriel. Ça leur permet de se rappeler des histoires très très longues. Donc c'est une aide à la mémorisation. Et ça, c'est une technologie qui a disparu, mais qui a été utilisée sous cette forme ou d'autres pendant des dizaines de milliers d'années par l'humanité. Donc cette technologie est plus utilisée par personne, mais imaginez que les livres, ça sera pareil à la fin, bientôt. Merci.
Merci.